Chapitre 11. Scandale sur la boudeuse. Jamais avant lui, aucun Français n'avait effectué à proprement parler le tour du monde. Contemporain de James Cook et comme lui grand navigateur, le comte Louis-Antoine de Bougainville, né en 1729 et qui mourra en 1811, Bougainville n'était pourtant pas, c'est le moins que l'on puisse dire, enfant de Neptune et d'Amphitrite. Fils d'un notaire au Châtelet et d'une Parisienne installée par son frère, le financier d'Arboulin, dans l'orbite de la marquise de Pompadour, le jeune garçon, tôt orphelin de mère, eut la grâce d'être protégé par la huppée Madame Hérault de Séchelles, fille du contrôleur général des finances. Il devait longtemps correspondre avec elle, assez en tout cas pour fournir à ses biographes 100 détails sur sa jeunesse. D'abord avocat au Parlement, il avait tout pour s'édifier la carrière la plus éclatante. Du reste, son père le voulait magistrat, à tout le moins auteur en vue comme son grand frère l'académicien. Les armes le poussent vers d'autres horizons. Pendant la guerre de 7 ans qui dure de 1756 à 63, notamment au Canada comme aide de camp de Montcalm, il est blessé 2 fois. Partout, il fait la preuve d'un sens aigu de la stratégie et d'un esprit de décision qui laisse augurer de beaux commandements. La paix de 1763 aurait dû le rendre à son foyer, mais sur les instances du prince de Condé, le voici voguant vers les Malouines avec 2 vaisseaux en tant que capitaine de frégate. En vérité, cela fait déjà 7 années que Louis-Antoine voulait se faire marin, un de ces marins avertis et lettrés, frottés de géographie et de botanique, comme il se doit au siècle des Lumières. Formé aux mathématiques par D'Alembert en personne, on le voit à seulement 22 ans écrire le premier volume de son traité du calcul intégral. D'une nature accorte, d'un esprit que l'époque aurait qualifié de délié, le jeune aristocrate se révèle aussi charismatique. Il y a chez lui l'étoffe d'un meneur d'hommes. Et lorsque plus tard, à la tête d'équipages épuisés, il lui faudra exiger de ses marins des sacrifices hors normes, ses heureuses dispositions feront la différence. En attendant, sa grande ambition, partagée par les beaux esprits du temps, recoupera bientôt celle de l'administration royale. S'en aller reconnaître, baliser et pourquoi pas coloniser pour le compte de Sa Majesté très chrétienne les confins inexplorés du globe et se jeter pour cela dans la circumnavigation, entendez le tour de la planète avec pour compagnon un naturaliste, Commerson, un astronome, Véron, un cartographe, routier de Romainville. Sans oublier l'aventurier nécessaire à ce genre d'entreprise, en l'occurrence le prince Charles de Nassau, qui navigue depuis l'âge de 15 ans sur les bâtiments du roi de France. La mission est donc scientifique, si l'on ose le terme, mais aussi politique et clairement national. Ne s'agit-il pas, en fin de compte, de contribuer à l'avancement de la navigation et du commerce et, par cela même, au bien de la nation ? Venu de Nantes et parti de Brest sous de pesants nuages, le 5 décembre 1766, la frégate Boudeuse traverse en 2 mois l'océan pour venir mouiller saine et sauve à Montevideo. Elle sera rejointe en juin de l'année suivante par un navire de charge, l'Étoile, arrivé de Rochefort à Rio de Janeiro. Pour les savants du bord, la faune locale et la flore sont un sujet d'ébahissement. Commerson repère une liane à fleurs éclatantes et la baptise complaisamment du nom de Bougainvillea. Oui, c'est du Brésil que nous vient la fameuse bougainvillée, on dit aussi bougainvillier, aux fleurs colorées appelées à proliférer sur le pourtour méditerranéen et à s'allier si bien au bleu de la mer Égée et au blanc de l'habitat cycladique. Un ordre de Louis XV l'oblige à remettre ses chères Malouines aux Espagnols afin qu'elles soient mieux protégées des Anglais. Bougainville s'acquitte de cette mission avec bien peu de joie. Le 14 novembre 1767, il met le cap au sud, aux grandes dames des équipages qui, comme tous les équipages dans tous les siècles, redoutent ces latitudes australes. De fait, le navigateur doit ici composer avec les éléments, ouragans furieux, brouillards impénétrables. Il n'en franchit pas moins le détroit de Magellan et, après 2 nouveaux mois difficiles, pénibles même, d'une navigation sans escale, explore en plein Pacifique le sud d'un essaim de plusieurs dizaines d'atolls, les îles Tuamotu, qu'il baptise à juste titre « archipel dangereux ». Début 1768, la boudeuse et l'étoile dépassent Vaitai et Akiaki, puis Ao et Meetia, avant de pénétrer le 2 avril en baie de Matavai. À cette date, Tahiti n'est hélas plus une découverte pour les Européens, le Britannique Samuel Wallis étant déjà passé par là 8 mois plus tôt. Au moins, le site est enchanteur. Les couleurs, ineffables. La végétation, conforme à l'idée que l'on se fait du paradis terrestre, ou de Cythère, pour user d'une image païenne et polissonne, plus conforme sans doute à l'esprit du bord. Même les autochtones paraissent vouloir participer de l'envoûtement général. Les sauvages ne paraissent pas étonnés de nous voir. Ils sont fins commerçants mais de bonne foi, écrit Bougainville. Il est venu dans une des pirogues une jeune et jolie fille presque nue qui montrait son sexe pour de petits clous. Affolement dans les rangs, je le demande comment retenir au travail, au milieu d'un tel spectacle, 400 Français jeunes, marins et qui depuis 6 mois n'avaient point vu de femme. Je n'ai jamais rencontré d'homme mieux fait ni mieux proportionné. Pour peindre Hercule et Mars, on ne trouverait nulle part d'aussi beau modèle, surenchérit Bougainville. Le journal du navigateur paraîtra dès 1769 sous un titre alors peu commun, « Voyage autour du monde ». Ces descriptions alimenteront d'abondance la discussion philosophique alors très en vogue sur l'homme naturel et contribueront beaucoup à l'édification du mythe du bon sauvage. On sait du reste le supplément que lui donnera Diderot. En somme, ce texte contient ce que les contemporains rêvaient de lire, à commencer par une description idyllique de la société tahitienne. Ce n'est pas l'usage à Tahiti que les hommes, uniquement occupés de la pêche et de la guerre, laissent au sexe le plus faible les travaux pénibles du ménage et de la culture. Ici, une douce oisiveté est le partage des femmes et le soin de plaire leur plus sérieuse occupation. Je ne saurais assurer si le mariage est un engagement civil ou consacré par la religion, s'il est indissoluble ou sujet au divorce, quoi qu'il en soit. Les femmes doivent à leur mari une soumission entière. Elles laveraient dans leur sang une infidélité commise sans l'aveu de l'époux. Son consentement, il est vrai, n'est pas difficile à obtenir, et la jalousie est ici un sentiment si étranger que le mari est ordinairement le premier à presser sa femme de se livrer. 9 jours seulement en cet Éden du bout du monde, ayant enfoui dans le sable avant de lever l'ancre un document proclamant l'île française au nom du roi, M. de Bougainville doit arracher ses hommes aux bras accueillants des Tahitiennes. Au passage, il emmène un jeune volontaire tahitien du nom d'Aotourou. C'est ce dernier qui va contribuer à révéler un secret jusqu'alors bien gardé à bord. Assez vite, le nouveau passager se lie en effet d'amitié avec un certain Barret, jeune domestique au service de Philibert Commerson. Son emploi auprès du naturaliste, Barret porte les fardeaux, les armes, les plantes, les habits, les trophées, avec un enthousiasme de néophyte et un dévouement sans bornes. Il sert à table, entretient la cabine de son maître et, à ses heures perdues, va jusqu'à préparer le classement des collections ne coûtant somme toute à la marine qu'une ration de matelots. Aotourou se montre assidu à son égard et prend visiblement plaisir à se laisser peigner, préparer, poudrer par l'attentionné servant, à moins qu'il ne s'agisse d'une attentionnée servante. Le sourcilleux Vivès, chirurgien du bord, avait depuis longtemps flairé le coup fourré et souligné les soins particuliers pris par ce mâle domestique pour le bien-être de son maître. Je cite « Après le premier mois, le doux repos qu'il goûtait fut interrompu par un petit murmure qui s'éleva dans l'équipage. Il y avait à bord une fille déguisée. On jeta sans balancer les yeux sur notre petit homme. Tout annonçait en lui un homme féminin, une petite taille, courte et grosse, une poitrine élevée, une petite tête ronde, un visage garni de rousseur, une voix tendre et claire, une adroite dextérité et une délicatesse qui ne pouvait être que de son sexe, faisait le portrait d'une fille assez laide et mal faite, nous dit le témoin. Les officiers firent feinte d'ignorer ce trouble pendant longtemps, mais le bruit était devenu trop général. » Bougainville est finalement contraint d'intervenir. Alors que l'on aborde les nouvelles Hébrides, il lui faut déférer aux ordonnances interdisant à toute femme de naviguer sur les vaisseaux du roi. Il lui faut recevoir l'étrange domestique et le jauger. Une fois encore, c'est lui-même qui nous le raconte. Barret, les larmes aux yeux, m'a assuré qu'elle était une fille, qu'elle avait trompé son maître en se présentant à lui sous les habits d'homme à Rochefort au moment de son embarquement. Née en Bourgogne et orpheline, la perte d'un procès l'avait réduite à la misère. Elle avait pris le parti de déguiser son sexe. Au reste, elle savait en s'embarquant qu'il était question de faire le tour du monde. Ce voyage avait piqué sa curiosité. Belle histoire, entièrement fausse évidemment. Le chemin de Jeanne Barret, c'est son nom complet, et celui de Philibert Commerson ne se sont pas croisés juste à la veille de l'embarquement. En vérité, il y avait belle lurette que le savant connaissait la jeune femme. Il l'avait prise à son service dès septembre 1764 et l'avait entraînée à bord en toute connaissance de cause. Le naturaliste en sera quitte pour débarquer à l'île de France, l'actuelle île Maurice, en même temps que sa complice démasquée. Ils y seront reçus par l'affable Pierre Poivre, vieille connaissance de Commerson, alors gouverneur de l'île. Quant à Jeanne, elle ne rentrera en France qu'en 1775, veuve et remariée. Elle deviendra la toute première femme de l'histoire à avoir accompli le tour complet du globe. Pour l'expédition Bougainville, l'interminable navigation se poursuit. À bord, la survie est depuis longtemps devenue un défi. Je cite, « Les vivres étaient si pourris et d'une odeur si cadavérique que les moments les plus durs de ces tristes journées étaient ceux où la cloche avertissait de prendre des aliments dégoûtants. On peine à se faire une idée des conditions extrêmes endurées par les marins de l'époque. Enfin, le 16 mars 1769, après 2 ans et 4 mois d'un voyage au très long cours, se dessine enfin le havre tant désiré, Saint-Malo. Rendant hommage au courage, au zèle et à la patience invincible de ses officiers comme de ses équipages, Monsieur le comte de Bougainville va pouvoir, en dépit des 7 hommes dont il déplore la perte, savourer l'indicible joie du navigateur rentré à bon port, sa mission accomplie, ses cales pleines et sa réputation intacte. Quant à Aotourou, il pourra découvrir ce royaume de l'hémisphère nord dont il comprend de mieux en mieux la langue. Tout de même, il repartira de La Rochelle en mars 1770, mais succombera en route à Madagascar de la petite Vérole, sans avoir pu revoir son île de Tahiti.